Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, pour cette émission témoin, c'est Jacqueline Bonnet qui est mon témoin. Et avec elle, nous avons évoqué les transformations de l'agriculture après une conférence. Et puis, Jacqueline a observé des changements et s'interrogeait. Donc, j'ai trouvé que c'était bien qu'elle nous partage sa réflexion. Merci d'être à Radio Grand Ciel pour cela. Donc, agriculture et transition écologique. Pour toi, ça parle. Ça t'a interpellée parce que tu as connu autre chose.
Oui, je suis née dans une ferme en extrémité sud du département Eure-et-Loir, où mes parents étaient agriculteurs. Mon père pratiquait une agriculture conventionnelle, c'est-à-dire il cultivait de l'orge, du blé et des betteraves, betteraves sucrières, toutes proches d'Artenay. Et très jeune, je me suis intéressée à ce qu'il faisait. Et je l'aidais à ma façon, c'est-à-dire que l'été, lui était sur la faucheuse et moi j'étais sur le tracteur et je transportais le grain ou pour le stocker à la ferme ou pour aller le livrer à la coopérative à 5-6 kilomètres du village.
Oui, donc là c'était la grande culture, en tout cas une agriculture conventionnelle, celle que certains décrivent aujourd'hui, mais peut-être qu'il faudra quand même... pour alimenter tous les gens qui ont faim sur la Terre. Enfin, c'est vrai qu'on est en transition écologique. Alors voilà, parlons un peu de comment ça nous interpelle, cette transition.
Alors, je reviendrai juste sur l'esprit que j'ai senti. C'était le rendement le plus intéressant possible, bien sûr. C'était une période où les progressions étaient régulières, avec les moyens qui étaient indispensables pour le réaliser, tout au moins ce que pensaient les agriculteurs à cette époque-là. Et là, en écoutant le témoignage de Philippe Pinlenc, j'étais très touchée par cette réflexion qu'il a faite. Alors, pour le présenter, il n'était pas agriculteur, il n'était aucune formation dans ce monde agricole. Et héritant par sa femme d'une ferme, il s'est interrogé sur comment donner du sens à son travail. Et j'étais très frappée par... sa réflexion, sa curiosité, les moyens qu'il a mis en œuvre pour le réaliser. Et c'est pour moi une révélation.
Est-ce que ça veut dire que la manière de cultiver de ton père était mauvaise? Parce que finalement, l'objectif d'après-guerre, il fallait bien nourrir les personnes. C'était indispensable.
Je suis tout à fait d'accord. La question était uniquement... Alors nourrir si on veut, dans le meilleur des cas, mais surtout produire. Produire. Et voilà, c'était les méthodes de l'époque, dans cette région tout au moins, mais ailleurs, ça très certainement.
Donc tu as vu par exemple l'abattage des haies ou des choses comme ça, enfin comment on a...
Moi j'ai jamais vu de haies dans les plaines de Beauce. Hein.
D'accord, oui, donc déjà le remembrement était fait.
Oui, il était en cours. Il était en cours et... Dans ce secteur, il n'y avait pas d'eux. Il y avait quelques bois, mais à part pour la chasse, ils n'étaient pas les bienvenus, les bois.
Ben oui, mais enfin, pour la chasse, c'est important quand on est agriculteur.
Oui, c'était... mais chasser dans la plaine, c'est aussi très agréable et très intéressant.
Donc, effectivement, on passe d'un système, et puis d'un seul coup, on s'interroge, parce que j'imagine aussi que les agriculteurs qui sont confrontés à ces choix, bon, finalement, ce qu'on a appris pendant... tant d'années, il ne faut plus le faire, et puis on s'interroge. Alors, qu'est-ce que cela amène comme réflexion, justement?
Alors, je veux dire, ma première réflexion sont les conséquences de cette agriculture. Parce que
cette agriculture productiviste.
Oui, parce que les engrais étaient réguliers, les traitements aussi étaient très, très réguliers. Donc moi, le premier inconvénient que j'y vois maintenant à ce type d'agriculture, c'était les conséquences. D'ailleurs, il est reconnu que les terres de Beauce ont beaucoup souffert. Et leur qualité, je ne sais pas, enfin, je ne peux pas m'étendre là-dessus, mais leur qualité, je pense qu'elles ne sont pas aussi bonnes qu'à une époque.
Oui, c'est vrai que quand on parlait de la Beauce, c'était le grenier à blé de la France. Hein. Oui. C'était vraiment... pour nourrir les hommes, et il y avait la Brie et la Beauce qui étaient vraiment les zones les plus intéressantes. Et de fait, après la course au rendement, On a peut-être oublié que l'agriculture productive, c'était pour se nourrir, et puis on a oublié que la nature avait aussi ses contraintes. C'est cela aussi que les écologistes nous aident à comprendre, non, à reprendre.
Oui. Déjà, le principe en Beauce, c'est toujours, je pense, des grandes surfaces, des surfaces très, très importantes. Et lui, sa réflexion de parcelles dont la production et la culture est bien choisie pour permettre, entre autres, une certaine biodiversité. Ça m'interroge beaucoup, ça m'a beaucoup interrogée. Quand il parle de voir revenir les animaux, les oiseaux, quand on voit l'état de la Beauce maintenant, sur ce plan-là, sont deux mondes totalement différents.
C'est vrai.
Et puis, oui, la multitude aussi des cultures. Enfin, il choisit l'intérêt des cultures pour le sol aussi.
Donc, on redécouvre une culture complètement différente. On tient compte du sol, où il faut couvrir les sols. Et ce n'est pas simplement la course au rendement.
Sans comparaison, il a également parlé aussi des labours. À l'époque que j'ai connue, on labourait systématiquement. Des choumets, on labourait. La terre était à nu. Il a aussi parlé des conséquences pour la terre. Quand la terre n'est pas protégée, elle sèche. Puis, on parle aussi du travail des vers.
Oui, finalement, ce sont les vers qui labourent.
Oui. Et puis, il a aussi parlé, en labourant, si on creuse... Moi, j'ai le souvenir des charrues. On appelait ça des disques. En labourant, tu retournes trop la terre et la partie la plus riche, elle n'est pas là où il faut.
Parce qu'en retournant la terre, finalement, on envoie la partie superficielle qui est fumée dans le fond et on remet des cailloux.
Oui, des cailloux de l'engrais.
D'accord. Donc on retourne trop la terre. J'imagine que dans les lycées agricoles, c'est vrai que j'avais entendu Bruno Parmentier, directeur de l'école d'Angers, dire « Tout ce que j'ai enseigné pendant si longtemps, et bien maintenant, c'est remis en cause. »
Je pense qu'il a raison, tout à fait.
C'est aussi ce que disait cet agriculteur.
Alors, lui, il ne le remet pas en cause aussi, systématiquement parce que il n'a pas la même histoire.
Oui.
Mais ces deux ou trois premières années d'expérience-là l'ont alerté sur sa façon de cultiver. Et c'est là qu'il s'est intéressé à d'autres méthodes, à d'autres systèmes, et qu'il a varié ses productions. Et surtout qu'il a réfléchi à l'importance, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, mais à l'importance de chaque parcelle par rapport à une autre, ce qu'elle apporte de différent. Et je trouve que c'est j'ai envie de dire une culture plus intelligente, une culture plus naturelle, plus intelligente.
En tout cas, on se met à l'école de ce que dit la nature.
Oui.
Se mettre à l'école de la nature.
Vous écoutez Radio Grand Ciel.
Radio Grand Ciel. La radio qui rapproche les hommes.
Pourquoi ça t'a aussi touché, aussi bouleversé? Puisque finalement, dans cette émission Témoin, c'est aussi ton sentiment par rapport à ça et tes interrogations.
C'est-à-dire, dans un premier temps, c'est ce que je crois avoir déjà exprimé, ça m'a renvoyé à ce que j'ai connu, et ça m'a interrogé sur ce qui avait été pratiqué. Et ce qu'il réalise actuellement, ça me semble plus naturel, ça me semble écologique, bien sûr, mais surtout, c'est... un autre respect ou une autre utilisation de la terre.
Est-ce que ça influence, par exemple, ta manière de consommer? Par exemple, tu achètes bio ou tu fais ce genre de choses ou tu... Parce que quelquefois, c'est vrai que moi, je m'interroge, je me dis, bon, alors, voyons ça. Ah ben non, j'achète pas parce que ça vient du bout du monde, alors non.
Alors, avant cette réunion, je réfléchissais beaucoup à ça et j'essayais d'y faire attention. J'ai les règles un peu classiques, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que acheter des produits déjà de saison et puis acheter des produits les plus locaux possibles. Enfin, ça, ce sont mes règles. Bon, acheter français parce que local.
D'accord, oui.
Des produits de saison, consommer les légumes quand c'est la saison, mais la saison ici.
Oui.
Ça, ce sont mes règles. Et puis, j'ai un tout petit peu jardiné, très peu, mais j'ai jardiné. Bon, j'essaie aussi de protéger. Je répands toutes les feuilles que je peux trouver, je les ramasse et je les répands sur le sol. Je bêche beaucoup moins, j'avais la manie de la bêche, je bêche beaucoup moins. Bon, ça c'est vraiment une échelle, c'est vraiment, là, c'est presque le colibri, hein, c'est la goutte d'eau.
Bah non, mais est-ce que ça pousse quand on bêche moins?
Ça peut pousser, oui.
Oui, mais alors comment on fait pour planter des patates par exemple?
Alors des pommes de terre, j'en fais pas, je fais des tomates, je suis toute seule, donc je produis beaucoup moins. Je fais des tomates, je fais des courgettes, je fais des choses comme ça. Alors je vais dans mes plants. En général, ça correspond à peu près à la tonte de la pelouse. J'ai de la pelouse à tondre. Je mets beaucoup de. Je fais un genre de compost, si tu veux, et je trouve que les résultats sont, pour moi, ils sont largement satisfaisants. Quand je vois la taille des courgettes que je peux avoir, ils sont largement satisfaisants.
Voilà, tu répands du compost et puis.
Je fais le trou pour mettre le plant, mais j'ai agrandi le trou, oui. Et je fais un nid d'herbe de compost.
Oui.
Systématiquement maintenant depuis un certain temps.
Mais et là donc c'est la rencontre avec des agriculteurs qui le font, mais eux à plus grande échelle.
Oui, il n'y a pas de comparaison.
Oui, il n'y a pas de comparaison. Non, mais je trouve que c'est intéressant parce que en fait, bon, ce qu'eux font. Si on a un bout de jardin, aussi, c'est aussi peut-être important de le faire aussi soi-même. Mais ça, moi, ça m'arrange parce que j'ai un peu la flemme et bêcher, je trouve que la terre est basse. Alors, pas bêcher, ça me va tout à fait.
Oui. Alors, moi, j'ai beaucoup bêché parce que je pensais qu'il fallait, et je le crois encore, mais qu'il faut, tu veux, quand tu as des mauvaises herbes avec les racines, c'est la seule façon de vraiment les arracher au maximum. Oui. Bon, et là-dessus, j'ai eu des résultats. Mais enfin, entre une bêche et puis un disque de charrue, il n'y a quand même pas de...
Hein. Pas de commune mesure.
Oui. Donc, tout ça ramené à l'échelle d'un jardin, et d'un petit jardin.
Non, mais ça veut dire qu'en fait, cette transformation de l'agriculture et que les agriculteurs peuvent mener, ça nous interpelle aussi, nous, à la fois comme consommateurs, peut-être que les produits bio, les produits locaux, c'est important. Bon, le bio qui vient de Roumanie ou qui vient de Chine, ça me paraît moins intéressant pour la nature et pour la terre.
Enfin, moi, ça serait vraiment mon dernier choix. Il faudrait vraiment que je n'ai pas d'autre solution. Parce que, bien sûr qu'il est bio, mais quand...
Bio fait au bout du monde, voilà. 6000 km, c'est pas bio.
Le transport et la consommation de...
De pétrole.
Non. Non, non.
C'est pas bon ni pour la terre, ni pour la...
Non, pour moi, c'est pas pensable. Quoi. C'est pour ça que... Même si en hiver, on n'a pas, niveau fruits, on n'a pas forcément beaucoup de choix.
Il y a encore les congelés qui peuvent encore nous sortir, ou les conserves qu'on a faites.
Oui. Oui, je suis d'accord.
Eh bien, ça veut dire qu'en fait, cette transformation de l'agriculture, c'est à la fois pour les paysages, pour l'agriculture, mais aussi pour nous-mêmes, pour nous les consommateurs, parce que finalement... Les choix que l'on fait par nos achats, c'est important pour la Terre. Alors, merci de ce témoignage qui est à recevoir comme il est, un témoignage. Merci, Jacqueline. Et aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous. Au revoir.